C'est Ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Aujourd'hui, c'est une émission gourmande. Oui, on va se régaler, une spéciale Donuts avec comme invité Bruno Catala. Eh bien, ça commence tout de suite.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Ma chérie, est-ce que t'aurais la gentillesse de me passer un donut ?
Un donut ? Mais qu'est-ce que c'est ?
Je comprends que ça met Homer dans tous ses états. Qui ne connaît pas Donuts, le nouveau jeu de Bruno Catala ? Donuts est un jeu abstrait qui a été joué plus de 200 000 fois, mais sur Board Game Arena sous le petit nom de Insert. Désormais, Insert laisse la place à Donuts, un jeu de joueurs édité par Funforge. Alors, niveau matériel, on va retrouver 4 plateaux recto verso, 1, 2, 3 cases par 3 cases, représentés par des assiettes divisées en deux côtés rose et côté blanc, pour accueillir les donuts, hein, qui eux sont en bois, un côté chocolat et un côté vanille. Croquez pas dedans, ça peut faire mal aux dents. Chaque joueur en aura 15 et les met du côté qu'il préfère. Bien entendu, si Johan prend la vanille, bah, je les poserai moi du côté chocolat. Ça tombe bien, je préfère aussi. Le but étant d'en aligner 5 pour gagner. Mais alors comment on joue à ce jeu gourmand ? Bah déjà, on va poser les 4 plateaux sur la table, hein, pour avoir une surface de jeu de 6 assiettes par 6, soit un total de 36 assiettes. Si au niveau règles, c'est simple, et bien il faudra bien réfléchir avant de poser un de ces donuts. Le premier joueur, le plus gourmand des deux, ou après tirage au sort, hein, on va prendre un des jetons et le poser sur l'assiette de son choix. Sur l'assiette, il y a une direction d'indiquer, soit verticale, soit horizontale, soit diagonale. Ça veut dire que je vais imposer à mon adversaire la direction sur laquelle il devra choisir une assiette pour poser un donut à son tour. Si j'ai posé un donut avec une direction horizontale, l'autre joueur n'aura pas le choix. Il devra poser son donut sur la même ligne que moi. Et lui fera de même et ainsi de suite. Hein, si jamais la direction de lui est imposée et impossible, pour lui, dans ce cas, bah, il mettra son donut dans l'assiette de son choix, là où il veut. Et là, vous allez me dire, mais ça va être impossible d'en aligner 5. On finira, oui, par se bloquer. Sauf que je ne vous ai pas tout dit. Rappelez-vous le premier nom du jeu, Insert. Oui, vous allez pouvoir changer la couleur du donut si vous arrivez à vous insérer. Exemple, j'arrive à poser un donut vanillé entre deux donuts chocolat. J'ai réussi à m'insérer. Dans ce cas, les deux chocolats, je les retourne côté vanille. Et forcément, ça change tout. Surtout que les insertions peuvent fonctionner avec plusieurs donuts à partir du moment où ils sont encadrés par des donuts de couleur adverse. Ça fonctionne dans les différentes directions, donc vous avez bien compris que quand on joue un donut et que l'on impose la direction à l'autre, il faut bien vérifier si le coup d'après, on ne risque pas de se faire piéger. Donut, c'est l'inverse d'Othello. Hein. Finalement, on ne va pas retourner des pions quand on les encadre, mais quand on les insère. Mécanique originale qui, à ma connaissance, n'existe pas dans le jeu de société. Mais on aura hein, l'occasion de le demander à Bruno Catala. Cette technique hein, pourra dérouter certains joueurs lors des premières parties, mais on prend vite le pli finalement. Dernière chose, mais que se passe-t-il si on n'arrive pas à aligner 5 donuts et que l'on n'a plus de donuts ? Dans ce cas, bah, il faut vite aller en acheter. Car si vous n'avez plus de donuts pour le goûter, c'est la cata. Non, on parlait du jeu bien sûr. Celui qui a formé la plus grande zone de donuts adjacente l'emporte. Insert était un classique sur Board Game Arena. Il est fort à parier que Donuts devienne un classique de joueurs du jeu de société. En tout cas, une chose est sûre, vous ne ferez pas une partie. Non, vous allez les enchaîner 2, 3, 4, 5, voire 10 parties. Donuts, donc le nouveau jeu de joueurs de chez Funforge, signé donc Bruno Catala.
Événement ludique.
Et l'événement ludique aujourd'hui, c'est la spéciale Donuts, une émission gourmande avec comme invité l'auteur du jeu, Bruno Catala. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Et merci d'être dans C'est Ludique une nouvelle fois pour nous parler de Donuts, entre autres, hein, ton nouveau jeu abstrait. Alors, ouais. Ma première question, rien à voir avec le jeu, est-ce que tu es gourmand ? Est-ce que tu manges des Donuts ?
Alors, pas du tout. Oui, alors, il y a deux réponses à la question, c'est oui, je suis gourmand.
Oui.
Non, je ne mange pas de Donuts, je trouve ça dégueulasse, en fait.
Ok. T'as été au Canada dernièrement, t'as fait une ouais. partie avec des vrais Donuts, donc t'étais pas tenté de les manger, quoi.
Bah, j'en ai mangé un quand même, mais franchement, pourtant c'était des trucs de super qualité par un pâtissier et tout ça, mais pour moi c'est trop en fait.
Ouais.
C'est trop en taille, c'est trop en sucre, c'est trop en tout en fait. et pourtant je suis gourmand. Hein.
Et pourtant t'es gourmand. Ouais. Alors d'ailleurs au Canada, au Québec, on appelle ça des beignes et pas des donuts. Si le jeu sort là-bas, il s'appellera beigne.
Non, il s'appellera Donuts aussi. D'abord, c'est pas s'il sortira là-bas, c'est il sortira là-bas, c'est clair.
C'est clair, il sortira et il s'appellera bien Donuts.
Oui, exactement.
Alors, plus sérieusement, maintenant, on va revenir sur l'histoire et la genèse de Donuts, car j'ai le souvenir d'un jeu qui ne se jouait pas du tout avec des Donuts et qui s'appelait Insert.
Tout à fait.
Alors, ça a commencé comment ?
Ça a commencé par un raccourci que jamais il ne trouva, par une nuit sans lune. Ça a surtout commencé par un matin d'insomnie, en fait. Et en fait, le système de jeu m'est apparu comme ça, quoi.
Ouais.
En fait. Voilà. Et le système de jeu, quand je parle du système de jeu, initialement, c'était uniquement les lignes directionnelles qui contraignent le coup du joueur suivant.
D'accord, ok.
Donc, pour les auditeurs, en fait, à chaque tour, on pose un donut ou un anneau sur une case. Sur cette case, il y a une ligne directionnelle qui limite les choix du joueur suivant et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu à contraintes successives. Et ça, c'est le, je sais pas, j'ai vu le plateau en fait dans mon insomnie là, et ouais. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire avec ça vraiment. Et puis la première idée qui m'est venue à l'esprit derrière pour mettre ça en œuvre, c'était de dire, bah en fait, assez naturellement, on va faire des encadrements et quand on encadre, on retourne comme à l'hôtel.
Ouais.
Et j'étais super excité dans mon lit tout ça de me dire, ah ouais, super, ça a l'air génial. Et puis au bout de quelques minutes, je me suis dit, bah non, en fait, c'est nul. Parce que en fait, ce n'est qu'une variante de l'Othello.
Ouais.
Et donc, du coup, faire une variante de l'Othello, si la contrainte est différente, mais que la finalité c'est la même, ça n'a pas de sens. C'est pas intéressant. Et du coup, j'ai continué là pour le coup à pousser la réflexion, et c'est là où en fait est venu dans ma tête de dire, en fait, il faut faire ça à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jouer à l'intérieur, il faut s'insérer pour réussir à retourner les anneaux adverses. Et du coup, bah oui, ça commençait à prendre vraiment du sens parce que ça n'avait jamais été fait.
Ouais.
Et du coup, effectivement, il faut raisonner à l'envers. Donc, il faut faire un petit effort sur la première partie ou sur les deux premières parties selon le joueur qu'on est, parce qu'on nous a tellement appris. Il faut encadrer, que c'est toujours vrai, que ce soit à l'école, que ce soit dans les jeux, tout ça. Que là, il faut raisonner à l'envers, mais c'est ce qui fait le sel et l'intérêt de ce jeu, quoi.
Ouais. La mécanique est un petit peu déroutante au début, hein, mais bon, après, on prend l'habitude de l'insertion.
Exactement.
T'as fait combien de parties d'Insert ?
Oh, plus de 2000.
Plus de 2000.
Et... Oui, parce que c'est en fait c'est complètement ma came. C'est-à-dire que si j'ai fait plus de 2000 parties, c'est pas parce que j'avais besoin d'en faire 2000 d'un point de vue game design. Ça en fait, j'y joue pas tous les jours, mais presque. Et en général, quand j'en fais une, j'en fais 5, 6, 7 ouais. d'affilée. Mais parce que, et en oubliant totalement que c'est moi qui ai créé ce jeu, c'est simplement à ça que j'aime jouer en fait.
C'est l'un des jeux que tu as le plus joué ?
Oui, avec Mo, sans doute.
Est-ce que ça a été compliqué, même pour Bruno Catala, de trouver un éditeur ?
Ça a été très compliqué. C'est pas que ça a été compliqué, c'est que ça a été très compliqué.
Mais oui, parce que Insert, c'est vrai, on le voit depuis un petit moment, on voit tes plaques de bois là, que tu sors avec tes anneaux, et on se disait, mais il n'y a toujours pas d'éditeur.
Bah non, et en plus avec un vrai engouement sur le jeu, parce que le jeu il était sur Board Game Arena et en ouais. fait c'était plus de 200 000 parties jouées, donc on peut pas dire que ce soit un jeu qui soit passé inaperçu, quoi. Moi j'ai des jeux qui ont été publiés pour de vrai
ouais.
et qui ont pas fait ce nombre de parties sur Board Game Arena, donc ce qui démontre bien le potentiel du projet. Mais par contre les éditeurs sur les jeux abstraits deux joueurs sont très réticents parce que voilà, ils savent pas s'il y a vraiment un marché, voilà, ces jeux-là ont mauvaise réputation entre guillemets, donc il y en a très peu qui s'y collent.
Ouais.
Et... Donc du coup, ça a été un long chemin de croix.
Combien de temps avant de trouver un éditeur ?
3 ans.
3 ans, 3 ans.
Ouais.
C'est énorme.
Et en fait, avec des phases d'enthousiasme et des phases de déception importantes. Parce que je l'ai d'abord signé chez un premier éditeur,
ouais.
en fait, et puis l'éditeur, il l'a eu pendant plus d'une année, et en fait, n'a rien fait, c'était moi qui essayais de trouver des solutions techniques, etc., parce que techniquement, c'est pas que facile à réaliser, ces anneaux, tout ça.
Ouais.
Et donc, voilà, donc c'est moi qui ai fait le sourcing, et puis finalement, il a abandonné le projet, donc après, je me suis rapproché d'un autre éditeur... sur lequel j'ai beaucoup espéré, et puis sur lequel ça a fini par tourner en autre boudin. Et puis finalement, c'est à Vichy, pas cette année, mais l'année d'avant, donc il y a un peu plus d'un an maintenant,
ouais.
que Funforge m'a dit « Non, mais ce jeu-là, on va le faire ». Et donc du coup, ça, c'était... Moi, j'étais super content, quoi, vraiment, hein, parce que ce jeu, j'y crois à fond, et c'est... Alors c'est certainement pas le jeu avec lequel je ferai plus de ventes, mais je suis tellement content qu'il ait pris vie que je suis content vraiment. Ouais.
Alors comment Insert est devenu Donuts ? Car je suis sûr qu'avant les Donuts, il y a eu d'autres thématiques, non ?
Non, pas du tout, en fait.
Non,
enfin, c'est-à-dire que Funforge, donc mon éditeur, souhaitait trouver une astuce, on va dire, bon, thématique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas esthétique,
ouais,
pour tenter de décloisonner le jeu abstrait et pour tenter qu'il soit attractif pour un public qui n'irait pas nécessairement vers du jeu abstrait, pour le rendre plus user-friendly d'une certaine
D'accord.
façon, moins austère.
Ouais.
Alors moi j'aime beaucoup hein, le côté austère presque pur des jeux abstraits traditionnels, mais je comprends tout à fait la démarche. C'est-à-dire que moi pour moi le premier, si je réussis à accéder à un public plus large, je vais certainement pas m'en plaindre.
Bien sûr.
Et donc du coup, la question c'était quoi comme thème ?
Ouais.
Et le problème, c'est qu'on est plus ou moins contraint par cette forme des anneaux.
Ouais.
Parce que la forme de l'anneau est importante, puisqu'il faut qu'au centre de l'anneau, on puisse toujours voir la direction.
Mais oui.
Et donc l'anneau est une nécessité. À partir de là, ben, y a eu plein de réflexions pour tenter de trouver des thématiques qui à la fois soient, attractives pour un public très large, quel que soit son âge aussi, voire même des plus jeunes. Et puis en même temps, ben, des éléments sous forme d'anneaux, il n'y en a pas des masses, quoi. Parce que bon, faire des bouées canards, c'est pas très intéressant. Faire des pneus, c'est pas très intéressant. Enfin, tu vois. Et donc finalement, quand ils sont venus avec l'idée des donuts, moi ça m'a un peu surpris, mais en même temps, j'avais rien à proposer de meilleur. Donc
ouais,
à partir de là, allons-y, quoi.
Alors on a découvert les donuts à Cannes avec cette boîte rose, mais si j'ai bien compris, t'étais un petit peu déçu du résultat.
Ah non, j'étais pas un petit peu déçu du résultat, c'était juste pas acceptable.
Ah oui, d'accord, ok.
Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas la thématique. Il y avait deux éléments qui étaient dramatiquement pas bons. C'était, premièrement, le matériel en lui-même.
Ouais.
C'est-à-dire que les plateaux étaient beaucoup plus petits que les plateaux actuels.
Ouais.
Les donuts étaient aussi plus étroits. Mmh. Et ce qui fait que quand tu posais ton donut sur une case, tu ne voyais plus la direction.
Ah oui, donc ça effectivement c'était embêtant.
Or, comme c'est un jeu dans lequel il faut anticiper, il faut pouvoir se projeter, alors là il va pouvoir jouer là, mais moi ça va me faire jouer là, et ainsi de suite, et ben toute cette gymnastique intellectuelle-là, qui doit être facilitée par le matériel, là elle était rendue complexe par le matériel. Donc ça rendait le jeu vraiment, sinon injouable, du moins très difficilement jouable. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ça pouvait pas marcher.
Ouais. Donc du coup,
et la deuxième chose, parce qu'il y avait deux choses, et la deuxième chose c'était le visuel de boîte.
Ouais.
C'est pas le fait que la boîte était rose, ça moi je m'en fous.
Oui,
je veux
oui.
dire, dans mon esprit, le rose ou le bleu ou le machin truc, ça projette pas de trucs particuliers. Mais c'est que le visuel de boîte laissait penser que c'était un jeu dans lequel on allait devenir les meilleurs pâtissiers de je sais pas quoi.
Ouais.
Et donc, à un moment donné, moi j'ai bossé en magasin pendant quand même quelques années. Et je sais à quel point il est important qu'il n'y ait pas de confusion entre ce que projette la boîte et l'expérience de jeu. Et donc du coup, là, ça ne marchait pas, en fait.
Ouais.
Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai ce qui m'avait un peu agacé, c'est que je l'ai découvert à Cannes alors que les gens étaient déjà en train de jouer dessus. Donc, voilà. Donc, on s'est expliqué, et comme j'ai affaire à un éditeur intelligent, on a trouvé quelque chose qui fonctionne maintenant, aujourd'hui, très très bien. J'en suis très content.
Et ça fonctionne, oui, très très bien.
Ouais.
Du coup, même niveau matériel et tout, hein, c'est top. Donc, c'est sorti il y a quelques semaines.
Oui, il y a 10 jours, en fait.
Est-ce que tu as déjà eu des premiers retours ?
Non, parce que ça, de toute façon, il faut savoir que les auteurs, ils ont des retours au moment de leur relevé de vente.
D'accord.
Et les relevés de vente, selon les éditeurs, ils les ont tous les 3 mois, les 6 mois ou les 1 an. Donc
c'est pas tout de suite.
Je pourrais te faire un retour sur les ventes fin janvier.
D'accord, fin janvier, ok, ça marche. Alors on va parler maintenant d'un autre jeu, Moonriver, un jeu
ouais.
King Domino, mais cette fois-ci sans domino. L'idée de ça, c'est de prolonger la gamme King Domino.
Alors de toute façon, King Domino, bah voilà, c'est un jeu qui a gagné le prix, qui a eu plein de récompenses et tout ça. C'est un jeu sur lequel il y a eu un vrai engouement. Et moi, quand je suis bien dans un système de jeu, j'ai toujours envie de le développer. J'ai déjà fait ça sur Cyclades, sur Abyss, sur Five Stripes, enfin voilà. Donc en fait, moi, raisonner en gamme, c'est pas quelque chose de nouveau chez moi.
Ouais.
C'est pas lié à King Domino. Donc, par contre, dans King Domino, dans l'univers de King Domino, j'avais déjà fait King Domino, j'avais déjà fait Queen Domino, j'avais déjà fait King Domino Origins, j'avais fait aussi le duel, donc l'extension Les Géants pour King Domino, donc ça commençait à faire beaucoup. Et pour autant, j'étais persuadé et j'avais toujours envie d'apporter quelque chose de différent. Donc, il fallait trouver, pour que ça fasse sens, enfin, ça n'avait pas de sens de simplement reskinner le jeu, en fait, avec des nouvelles images, pour, entre guillemets, revendre la même chose aux gens. Enfin, ouais. Ça, même si commercialement, un éditeur peut penser que ça fait du sens, moi, en tant qu'auteur, je trouve ça, enfin, ça m'intéresse pas.
Ouais.
Et donc, du coup, je réfléchis à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour prolonger cette gamme-là en apportant des twists suffisants pour que ça soit intéressant, pour qu'il y ait une vraie nouveauté sans rentrer dans la complexité. Et du coup, bah, en fait, il y a eu deux idées fortes et qui font le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Ces deux idées fortes, c'est qu'est-ce que c'est King Domino ? King Domino, c'est un jeu dans lequel on assemble des dominos pour faire des surfaces colorées. Et à la fin, chacune de ces surfaces te rapporte un nombre de points qui est égal au nombre de cases, soit le nombre de couronnes qui sont à l'intérieur des surfaces, ouais. Couronnes qui sont imprimées sur les cases. Moon River, c'est quoi ? C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de dominos, mais il y a des pièces de puzzle. Et donc, on va assembler ces dominos. Ça, c'est le premier twist. Et donc, ça, rien que ce fait-là d'essayer de fabriquer les meilleurs dominos possibles,
ouais.
C'est déjà un twist qui change ton expérience de jeu suffisamment pour que tu puisses y avoir un intérêt. Et le deuxième twist, c'est que nombre de cases fois nombre de couronnes, bah, ça n'existe plus non plus. Enfin, pas directement. Parce qu'au lieu que les couronnes soient imprimées sur les cases, ça devient des meeple vaches. Et ces vaches, grâce aux cow-boys, puisqu'on est dans un univers Far West, on va pouvoir les déplacer dans les meilleurs champs pour optimiser son score. Et donc, ces deux twists-là font que quand tu joues à Moon River, bah, en fait, t'es en train de jouer à quelque chose d'autre.
C'est ça, et il y a plus d'interactions aussi.
Ah bah, parce que moi, tu me connais.
Oui.
J'aime les jeux quand c'est un peu méchant, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si on joue chacun dans son coin, sans s'en piquiner, non. Donc oui, bah on est au Far West. Donc au Far West, on va pouvoir se voler du bétail, on va pouvoir s'enquiquiner un peu.
Autre succès, Bruno, c'est Sea Salt and Pepper. Alors là, c'est, oui. Je crois qu'on est à plus de 100 000 boîtes déjà vendues de Sea Salt and Pepper. Est-ce que
alors, mon éditeur m'a glissé dans l'oreille que c'est encore pas forcément vendu, mais je crois qu'en termes sortie de presse, on est beaucoup plus près de 200 000 aujourd'hui.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'est un truc, enfin moi, c'est là une aventure qui me donne un sourire incroyable. Parce que ce petit jeu qu'on a créé avec Théo Rivière pendant le confinement,
ouais.
Et qu'on a signé pendant le confinement grâce à, comment dire, à Tabletop Simulator, qui nous a permis de continuer à travailler avec les éditeurs à distance. Et on avait mis le proto sur Tabletop Simulator, puis ça nous a permis de faire jouer Bombix, et puis ils ont décidé de faire le jeu pendant le confinement. Et c'est un jeu dont on connaissait, nous, le côté attractif, le côté addictif et tout ça, mais... Ouais. Des petits jeux de cartes, il en sort 40 toutes les semaines. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il en sort quand même un paquet par an. Et donc, du coup, tu sais jamais quelle place tu vas réussir à te faire au soleil, quoi. Et en fait, on est ravis parce qu'il y a un engouement sur ce jeu-là. Enfin, moi, aujourd'hui, tu sais, les jeux, ils ont une durée de vie qui est de plus en plus courte. Mm. Souvent, tu sors un jeu, puis deux mois après, en fait, plus personne n'en parle, même s'il y a eu une petite hype au moment où il est sorti. Et tout pourquoi je suis très prudent sur Moon River et puis sur Donuts, parce que même si aujourd'hui tous les indicateurs sont au vert, ben tu sais pas de quoi demain est fait.
Mais
par
oui,
rapport
ouais.
à ça, tu sais pas de sa durée. Et en fait, aujourd'hui, quand on est plus d'un an plus tard, qu'on a ce volume de vente et qu'il n'y a pas une journée sur laquelle j'ai pas des photos de gens que je connais pas, qui sont en train de poster leurs images de leur partie de Sea Salt and Pepper sur les différents réseaux sociaux,
ouais.
Ça montre bien qu'il se passe quelque chose autour de ce jeu-là et que en fait le côté addictif que moi, je vis, et ben en fait, je suis pas le seul, et ça, c'est génial, quoi.
Et à quel moment vous avez eu l'idée avec Théo de ce booster, cette mini extension ?
Écoute, c'est venu assez récemment, en fait. Ça doit dater d'il y a 3-4 mois, je pense.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
moins de 6 mois, en tout cas. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est un jeu que je continue à jouer encore et encore et encore, enfin, très régulièrement, franchement. Alors, j'en suis pas encore à 2000 parties, mais j'ai bien dû en faire 500, hein. donc voilà. Et en fait, moi-même, quand j'ai envie d'une extension sur un de mes jeux, c'est pas parce qu'il faut faire une extension, c'est parce que moi-même, j'ai tellement poncé le jeu que j'ai envie de plus.
Ouais.
Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Sea Salt. À un moment donné, je me suis dit, on pourrait rajouter des cartes. Et puis ces cartes-là, moi, pour moi, dans mon idée, de toute façon, j'imaginais pas une seconde que ça devienne une extension. Parce que sur un jeu qui est à 10 euros ou à 12 euros.
Mais oui, c'est compliqué.
Bah, une extension, ça va coûter quasiment le prix du jeu. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Et complémentairement, on ne pouvait pas mettre beaucoup, beaucoup de cartes. Parce que sinon, tu casses la statistique répartition des cartes. Et en fin de compte, les effets dont tu as besoin, bah, tu vas les diluer tellement que tu casses ton jeu, en fait. Donc, on avait la place pour rajouter quelques trucs, mais pas suffisamment pour faire, par exemple, un deuxième paquet, tu vois.
Ouais. Ah oui, donc l'idée, c'est pas de sortir des boosters.
Et du coup, en fait,
moi,
ces cartes-là, au début, quand on les a réfléchis comme étant, finalement, des objets promotionnels où on se disait, bah tiens, allez, ça va permettre de pouvoir faire reparler du jeu. Sur tel salon, on va en mettre une qui sera, enfin, tu vois, en plus en goodies qu'autre chose, quoi.
D'accord.
Et puis, la bonne surprise, c'est que l'éditeur, lui, il a réfléchi différemment. Et au lieu de se dire, ben oui, bien sûr, promotionnellement, ça pourrait avoir un sens, mais finalement, et si on faisait un booster comme un Magic, en fait?
Mais
et
oui.
Donc, du coup, comme il n'y a plus à payer le prix de la boîte, qui représente sur un jeu à 10 euros, ça représente peut-être facilement un tiers ou un tiers du prix du jeu total, et ben si tu enlèves le prix de la boîte, alors dans ce cas-là, commercialement, il y a quand même une possibilité de pouvoir proposer les cartes.
Ouais.
Et l'excellente surprise, c'est que là, c'est pareil, on savait pas comment ça serait accueilli, parce que finalement, c'est à la fois pas cher, c'est que 5 euros, le booster, mais en même temps, si tu réfléchis, c'est 5 euros pour 8 cartes, tu dis, oh là là, c'est scandaleux. Enfin, tu vois.
Ah oui, ouais.
Mais en fait, non, le plaisir est là avant tout, parce qu'en fait, sur 5 euros, faut voir qu'en fait, en réalité, l'éditeur et nous, on gagne que dalle, hein, je veux dire. Mais par contre, ça fait vivre le jeu.
Ouais.
Et du coup, en fait, ce qui est génial, c'est que la première semaine, il s'en est écoulé 10 000.
Ouais, non mais c'est énorme.
Donc c'est, enfin, vraiment ce jeu pour moi ça me remplit, quoi, je suis content.
C'est vraiment le jeu où on joue, voilà, tu vois, moi le dimanche en général après avoir fait un gros jeu, bah hop, on sort un Sea Salt and Pepper et puis on a notre cahier pour voir qui gagne au fur et à mesure, quoi.
Et tu vois, ce jeu là pour moi il est intéressant parce que en fait il est à la fois très simple et il est à la fois pas si simple.
Ouais.
Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as déjà fait une ou deux parties, tout est naturel, tout coule de source, il n'y a aucun problème. Mais si tu découvres le jeu, que tu l'achètes, que tu n'y as jamais joué, tu as cette fin de partie où tu dois choisir si tu fais stop ou encore. Et ensuite, cette façon de marquer les points avec le bonus couleur, si jamais tu as réussi ton pari ou pas, si tu veux, qui, en fin de compte, c'est déjà une petite complexité qui fait que c'est moins simple que, je veux dire, n'importe quoi, qu'un 6 qui prend ou des trucs de ce genre-là, tu vois.
Bien sûr.
Et évidemment que quand on a bossé dessus avec Théo, on s'est beaucoup interrogé sur cet aspect-là. Et en fait, on a essayé, l'essentiel de notre travail, ça a été de tenter de trouver quelque chose de plus simple que ça. Et je peux te garantir que des versions, on en a essayé un paquet. Sauf que, à chaque fois qu'on faisait plus simple, on enlevait tout le sel du jeu.
Ah oui, d'accord.
Et donc, à un moment donné, on s'est dit, ben non, il faut assumer ce petit niveau de complexité, parce que c'est ça qui fait que tu as envie de continuer à jouer, en fait. Et du coup, on a résisté aux sirènes de la simplification absolue, si tu veux, pour conserver ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on a bien fait?
C'est clair. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Bruno d'avoir été ce matin dans C'est Ludique pour nous parler entre autres de Donuts et de Sea Salt and Pepper et de Moon River. Merci Bruno.
Oui, je rajouterai un dernier mot. Oui. Donuts, c'est un jeu qui ne fait grossir que les neurones.
Exactement, très bien. Merci beaucoup Bruno, à bientôt.
Avec plaisir. Ouais.
C'est Ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et c'est Ludique, ça continue en quelques secondes avec Marie. Salut Marie.
Coucou.
Alors tu vas nous donner rapidement ton avis sur Donuts, parce que Bruno Catala est très bavard, mais c'est super intéressant tout ce qu'il raconte.
Bien sûr, j'en doute pas, et je savais que je n'avais pas ton appel, j'étais sûre que Bruno était bavard, et je me suis dit que c'était bien plus intéressant de continuer à parler avec lui, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, moi Donuts, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé surtout parce que de base, je suis une très très grande fan d'Othello, et il y a vraiment un côté Othello dans Donuts. Et c'est très difficile s'il y a d'autres fans d'Othello comme moi, parce qu'en fait, on doit penser à l'inverse.
Ouais.
Et au tout départ, tu vois, les automatismes que j'avais sur Othello, je galérais à les enlever. Et du coup, bah, c'était vraiment un challenge pour moi, Donuts. Et j'ai fait plusieurs parties parce que c'est assez addictif, on s'arrête jamais à une partie. Et notamment, j'en ai fait beaucoup entre Pénélope Gaming.
Ouais.
Et on s'est vraiment tenu tête dessus à jouer, prendre la revanche, reprendre la revanche, prendre la belle, etc. Et donc voilà.
Donc c'est un jeu que t'as beaucoup aimé.
Ouais, c'est un jeu que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est, voilà, c'est un jeu rapide à deux joueurs. On peut quand même se prendre la tête, on peut quand même prendre du temps pour réfléchir, mais on peut vite perdre ou vite gagner.
Merci, et du coup, merci Marie. Allez,
oui,
salut.